vous laisser aller. Et une moitié, on parlera un petit chidouche de Pessah. De Israël ou Triato, dans le livre de Oroth, du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Cook. D'accord ? Page Kaf Vav.
Dans les livres blancs.
Évidemment, dans les livres blancs. Mais y a-t-il d'autres ? Alors allons-y. Kol ma shenoten koach yoter gadol la'olam haba, hare hu yoter chay ve'ometz gam ba'olam hazé. Tout ce qui donne de la force, de la grandeur, ba'olam haba, alors nécessairement ça donne aussi de la force et de la grandeur, ba'olam hazé. Et ça, c'est contre-intuitif. Parce que, j'allais dire grâce, mais à cause de nos amis chrétiens, on a appris qu'il y avait une séparation complète entre Olam Haba et Olam Hazé. On a appris que le monde d'après, c'est un monde de totale spiritualité. Et que, ici, nous sommes dans les travers de la matérialité de ce monde. Et il faut bien avouer que c'est rentré aussi chez une grande partie des Juifs. Ah ben c'est une grande erreur. Mais dans les faits, il y a beaucoup de Juifs qui pensent que ce monde-ci, c'est le monde de la matérialité. Et Bezrat Hashem, on arrivera dans un monde de spiritualité. Or, c'est absolument pas ça.
On arrivera au terrain connu.
Le fait que ce soit pour l'instant une terre inconnue, c'est une réalité. Mais est-ce que c'est une terre étrangère ? Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que non, Olam Haba n'est pas l'antinomie du Olam Hazé. Et c'est pourquoi vous vous rappelez de ce que dit le Ramchal. Bon, ça ne vient pas de lui. Mais le Ramchal va expliquer cela dans l'introduction du Messilat Yesharim. Il dit, Olam Hazé, c'est déjà marqué dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, hein? Olam Hazé domé les prosdor, lifnea, traklin. Que veut dire le mot prosdor et que veut dire le mot traklin?
Corridor.
Voilà, couloir, corridor, trouvez-moi tous les synonymes que vous voulez. Fais-moi c'est traklin.
C'est le palais.
Quoi? Non. La salle. Le salon. C'est le salon.
Ah, le salon.
Oui, à traklin, c'est le salon. Par rapport au couloir qui mène au salon. Bah, le traklin, c'est le salon. Hein? Quand tu vois les gens qui n'ont pas le même milieu socio-économique que toi, qui vont prendre l'avion, eux, ils vont, avant de monter dans l'avion, dans un traklin. Ils ont payé un billet en première classe. Ils ont l'entrée au traklin. Moi, j'ai jamais été au traklin.
Si tu aurais
dû
me
dire, je t'aurais invité.
C'est ça.
Une fois que j'ai fait, c'était super.
Tu vois ? Oui, à boire, tout ça. Donc le traklin, c'est bien. Ouais. Nahon, le traklin, c'est génial. Mais si on dit prosdor ve traklin, ça veut dire que ça fait partie du même ensemble. T'as pas dit Aolam hazé domé le baït, va Aolam haba domé le baït acher. Non, ça fait partie de la même maison. Il y en a un, c'est le couloir, l'autre, c'est le salon. C'est ça ? Donc Aolam hazé va Aolam haba sont fondamentalement liés. Et ça, c'est quelque chose que le judaïsme doit absolument réaffirmer après 2000 ans de chrétienté qui nous ont dit que les choses sont séparées. C'est-à-dire, donc, nous dit le Rav Kook, Kol ma shenoten koach yoter gadol la'olam haba, hare hu yoter chay be'ometz gam ba'olam hazé. Qu'est-ce qui donne de la force ba'olam haba? Non, kol ma shenoten koach, aval ze mazé? Zruyot, mitzvot, Torah,
milot
chassadim, ma'od. Il y a un truc que vous avez oublié. Yishuv ha'olam, mitzvot. Vous étiez encore dans une dimension, dans une dynamique religieuse. Oui, c'est nachon que les mitzvot. Oui, c'est nachon que le limud haTorah, que les zruyot. Oui. Mais n'oublie pas qu'il y a une chose que tu devais faire et que peut-être tu n'as pas fait. Est-ce que tu as construit ce monde ? Mais tu l'as fait ? Asakta bebinyano shel olam ? C'est une mitzvah de construire le monde. Hein, zéro, ah, zéro. C'est-à-dire, si tu dis ça, zéro minuta kama mitzvot de nachon, t'as raison. C'est-à-dire que ça, c'est un joker de religieux plus plus. C'est-à-dire, non, à quoi les mitzvot nachon. Mais est-ce que quand tu disais mitzvot, tu pensais à l'islol kvish? Peut-être que toi, oui. Toi, t'es un tzaddik. Mais la majorité des gens, quand ils disent mitzvot, ils parlent d'acheter un etrog. Même si c'est vrai que c'est toi qui as raison. En fait, il n'y a pas de
mitzvot d'acheter un etrog.
Ah bon? Oui, tu as raison, mais. Attendez. C'est vrai que tu as la mitzvah de l'Enaanéa, mais ça doit être à toi.
Oui, bah, on peut me le donner.
Ah, on peut te le donner. Donc, ça veut dire que toi, tu penses que l'idéal de la vie, c'est de vivre sur le dos de la société. Non, c'est bien, c'est une idée.
Si tu le voles, tu peux.
Oui, c'est ça.
Alors, Aïm Lula Vagazoul, est-ce que tu peux l'utiliser? Hein, c'est pas rien. Ça, c'est les.
Oui, mais moi, je parle de donner, lui, je parle de voler déjà.
Voilà, mais à partir du moment où tu as lancé l'engrenage, c'est parti.
C'est sans limite, là, c'est n'importe quoi.
C'est tout ça parce que j'ai dit qu'il fallait acheter un boy trog. Non, t'as vu? Non, non. En tout cas, quand on parle de mitzvot, on parle généralement, tout de suite vient dans nos têtes, la notion religieuse.
Des 613.
Mais en vérité, la asok bebinyano shel olam, c'est mitzvah. Sheshet yamim, te'ase melacha.
En Israël et Rousseret.
Donc j'en ai, oui.
Chazak, merci beaucoup.
C'est-à-dire qu'il faut réussir à construire le monde que Dieu nous a mis en place. C'est chachou. D'accord? Donc ça veut dire que tout ça, ça donne kohar ba'olam haba. La chen, yesh lo ter chayut ve'ometz ba'olam hazeh. D'accord? Va'davar mit bachen be'Israël le'inyan b'inyan ha'uma. Et on peut voir ça. Et on peut voir ça dans le peuple juif, dans sa capacité à construire le monde. C'est une grande chérie là, cette histoire de
donc
boîte.
Il y a de la vie dans le Rosolin.
Hein, mais en Afrique du Nord, il n'y avait pas de boîte.
Au
contraire.
Quoi ? En Tunisie, il n'y avait que des boîtes.
En Tunisie, il n'y avait que des boîtes ?
Que des boîtes.
Parce qu'au Maroc, il n'y avait pas de boîte. Hein.
Non, mais avant qu'ils aient été investis par les Lituaniens.
Hein, c'est ? Ouais. Quoi ? C'est des comme des Ashkenazes ?
C'était que des boîtes en bois, même.
Non, mais
c'est en
bois.
Des rouleaux.
Des boîtes, on avait pas.
Moi, je crois que les boîtes, c'est venu de Edot Amizrah. Que c'est venu de Bagdad, ces endroits-là. Non, ça l'air. Non, ce qu'il t'a dit. Kol ze mitzbachen beYisrael leinyan binyan ha'uma. C'est-à-dire. Tout ce qu'on, je t'ai donné une phrase générale. Achav bonire efo ze mitbachen milashon mifran ze omed be mifran be binyan ha'uma, dans le peuple juif. Mais alors, binyan ha'uma, binyan ha'uma, ça se fait pas que dans la yeshiva. Vas-y, binyan ha'uma, c'est de construire le pays. Alors moi je vais te dire, je me rappelle, je suis pas un vieux de la vieille, hein, je suis arrivé en Israël il y a 18 ans. Mais je me rappelle très bien que, enfin, en 18 ans, j'ai vu le Binyan Ha'uma. Pas seulement le Palais des Congrès, mais j'ai vu mamash comment ça a changé. Moi, je suis arrivé en 2003. Excuse-moi, Rehov Yafo, ça avait l'air d'être un bidonville. Ça avait l'air d'être le fin fond du Far West.
Oui, il y a 18 ans.
C'était pas, c'était moche, c'était katane, c'était. Tu vois que
c'était le couloir de Gaza.
Bah c'est joli.
En fait, fond, c'est en train d'être renouvelé complètement.
Avec les attentats, il n'y avait personne dans les rues.
Bon, alors, en plus de ça, il y avait les attentats, mais même sans parler des attentats, je te parle au niveau de la construction, l'architecture.
Ils sont en train de changer complètement les
niveaux. D'accord.
Et les routes aussi,
pareil. Et les routes intercités en Israël, c'était un peu n'importe quoi.
Non, il n'y avait pas de tramway.
Qu'est-ce tu vois que la construction du peuple juif, ça passe aussi par les infrastructures, ça passe. Binyan Ha'uma, un peuple, il doit se gérer une politique globale.
Absolument.
Et on voit que ça se passe, quoi.
Si. Moi qui fais qui pendant des années, j'ai fait des dizaines d'années, j'ai fait des allers-retours entre la France et ici, j'ai vu une évolution, hein, tous les deux, trois mois. Hein. Ouais, toi,
Non, c'est une réalité. Donc, effectivement, cette réalité du monde que pour amener au Olam Haba, c'est-à-dire Ometz ve'oz ba'olam hazeh, ça se vérifie au sein de la construction de la nation juive qui revient sur sa terre. C'est vrai ? Kol ha'ma'amatz.
Non, tu parles que du matériel, là. Là, tu, si tu veux,
bah, dire,
à travers le matériel, c'est évident qu'il y a une vision spirituelle. Le fait, le judaïsme, c'est collé, le spirituel et le matériel. Et
mais moi, au niveau spirituel, il n'y a jamais
eu autant de... Quand tu parles du matériel,
il y a yeshivot qui veulent maintenant.
Et tu as raison de le signaler, également au niveau spirituel. C'est-à-dire que la Torah, la réflexion, elle va beaucoup plus loin aujourd'hui qu'avant. Alors, il y a aussi, tu vas me dire, non mais attends, avant il n'y avait pas le postmodernisme, il n'y avait pas l'idéologie woke. Mais l'idéologie woke, c'est très bien.
C'est quoi l'idéologie woke ?
Ah, c'est quoi l'idéologie woke ? Bemilim pshutot.
Français.
Non, pas du tout.
Quand tu dis bemilim pshutot. Ah.
L'idéologie woke, c'est de déconstruire tout ce qui est possible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien d'acquis. À tel point que toi, ce n'est absolument pas acquis que tu sois un homme.
Ah bon, d'accord.
Ben non. Comment est-ce que je peux me permettre de t'appeler monsieur ? Moi, ce n'est pas parce que biologiquement, tu es de sexe masculin que ça te définit en tant qu'homme. Peut-être que tu préfères... te ressentir en tant que femme.
Dramatique.
Ça, c'est ce qu'on appelle l'idéologie woke.
Dramatique du
chien.
La directrice de Disney.
Eh ben, qu'est-ce qu'elle a ?
J'ai vu ça ?
De rentrer des personnages qui
font au moins 50% de personnages 50% qui soient LGBT.
Dans les histoires et dans les personnages.
Ribono, chez Lola.
De la folie.
Mais c'est pas grave, on n'a plus l'âge de regarder Disney de toute façon.
Mais non, mais ça veut dire que
pour les enfants.
Ben on leur montrera
Disney
les classiques.
Les
classiques où ils étaient encore Snoot, où ils étaient encore trucs.
De la folie.
Hein, il y a des Disney qui sont faits pour les Sfaradim, il y a des Disney qui sont faits pour les Ashkenazim, ça dépend. C'est quoi
les
radvats
Disney. Les nouveaux Disney,
c'est
très méchant.
Tout chute.
Mais non, maintenant, cette idéologie-là, elle est destructrice, elle est terrible. Mais pourquoi je dis qu'elle est bien ? Parce que Zemiprinat ayader akodem la havaya. Zemiprinat klipa akodem et la pri. C'est-à-dire que c'est très bien qu'on détruise ce qu'il y avait avant. Parce que ça va laisser place à quelque chose de plus grand.
Oui, mais Elsa, c'est pas quelque chose de plus grand pour l'instant, le mot.
Moralement,
tu crois quoi décrit,
Mais mon ami, tu crois que ça se fait en un jour ?
On est en train de la pourriture, là.
Non, mais Rome ne s'est pas faite en un jour.
D'accord.
Comme disait l'autre.
Ouais,
mais... D'accord ? Non, tu dis, pour l'instant, c'est pourri. Dis-moi, si je ne m'abuse...
Oui, la graine, elle pourrit avant que...
Et voilà, la graine, elle pourrit avant de donner un fruit, avant de donner un arbre, en plus. C'est-à-dire, donc, il faut être capable de voir ce qui est en train de se jouer. Ce qui est en train de se jouer, c'est la déconstruction des acquis qu'on a eus pendant très longtemps. Maintenant, il y a des choses où on y revient. C'est-à-dire, il y a des choses qui ont essayé d'être déconstruites, mais on y revient. Parce qu'il y a des choses qui étaient effectivement bonnes. Donc, on a essayé de déconstruire pour vérifier. Et finalement, on remet en place. Parce que c'était bien. Et il y a des choses qu'il faut déconstruire parce qu'il fallait les déconstruire. Il y a des choses qui n'étaient pas bien. Donc là, on est en train de faire tout un espèce de mixeur pour voir ce qui va sortir de tout ça. Ce qui va sortir, ça va être très bien.
C'est pas facile d'avoir de la hauteur devant ces événements-là.
Nahon. C'est local. C'est pas facile de savoir voir dans l'obscurité la lumière.
Pourtant, c'est dans l'ombre qu'on y voit le plus clair.
Pourtant, c'est dans l'ombre qu'on y voit le plus clair.
Quand tu es tranquille, que tu es...
Pas dans l'ombre. Tu n'arrives pas à les relire.
Mais la question que tu poses, c'est pourquoi est-ce que la mitzvah de Bdikat Hametz, c'est le or à nerf ?
On voit mieux.
Tu vois mieux.
Non, mais parce qu'on scrute.
Non, mais moi, je connais les explications des rabbins. Mais bon... Et à un moment donné, une bonne lampe torche électrique, elle éclaire quand même vachement mieux qu'une bougie. Hein, soyons honnêtes, amis. Non, parce que la lumière de la bougie...
Oui, mais c'est à l'époque.
Ah, ben, yeah. Dis-moi, c'est à l'époque. Donc, aujourd'hui, celui qui veut faire avec une lampe électrique, il peut. C'est pas ce qu'on te dit. Alors, on peut, mais il n'empêche que encore aujourd'hui, on va te dire, vaut mieux le faire avec une bougie. C'est la vigne. Ben, c'est pour. Il y a quelqu'un qui a demandé cette semaine, enfin, vendredi dernier, j'ai entendu une question qui a été posée au Rav Shmuel Eliyahu. Et j'ai bien aimé le franc de la réponse. Et il a dit, tout le monde était choqué. Il a dit, comment on fait quand on est Pessah dans un hôtel mais c'est pas, il a dit, c'est pas que Pessah, hein, Pessah, Shabbat, machin, dans un hôtel, pour l'allumage des Nérotes. Où est-ce que c'est le mieux d'allumer ?
Dans la chambre.
Marloquette dans la chambre, ou alors là où ils ont préparé l'allumage des Nérotes, oui. Machin. Arrête. Soit tu allumes là où tu dors, parce que tu dois allumer la lumière dans la maison. La maison, c'est là où tu dors. Ou alors, tu allumes là où tu manges. Parce que une grande partie de l'identité de l'homme, c'est quand il mange. Mais très généralement, dans les hôtels, la place préparée, elle est ni là où tu dors, ni là où tu manges.
Il y a écrit que la lumière électrique, c'est préférable.
Ah, et bien, le Rav Shmuel Eliyahu, il a dit, il n'y a pas de question à se poser. Il faut allumer dans la chambre une bougie électrique. Une lampe de poche. C'est tout. Et tu la laisses allumer jusqu'à ce que la batterie, jusqu'à ce que les piles, oui, tu vois, tu me regardes comme ça avec des yeux comme ça. Oui, c'est mieux. Si, alors si tu peux allumer dans ta chambre des vraies bougies, la malo, mais en général, hein, je sais pas. Après, chaque hôtel, il a son truc. Je sais pas. Si, non, en général, les hôtels, ils interdisent formellement, parce que il suffit d'un coup de vent et il y a un rideau et machin à tomber. Donc les hôtels, ils interdisent. Si l'hôtel est interdit, tu as pas le droit, halakhiquement parlant, d'allumer une bougie. D'ailleurs, il y a au Mahon Tzomet des lampes électriques en forme de deux bougies. Et tu mets ta pile.
J'en ai pour la soukha. Pour
pas que le vent et les trucs. C'est autorisé. C'est autorisé. Ah, mais c'est quoi le but de l'allumage des bougies de Shabbat? C'est quoi le but?
C'est pour voir dans...
Pour allumer la lumière. Pour pas que tu sois dans le noir, c'est tout. Lumière, le seul but de l'allumage des bougies de Shabbat, c'est que tu sois pas dans le noir pendant que tu manges ton repas de Shabbat. Ouais. C'est pas cool d'être dans le noir. C'est le seul but des bougies de Shabbat. Après, tu vas me dire, mais non, la spiritualité, tu allumes la lumière dans ton cœur. C'est-à-dire, tout ça, c'est chamoud. Mais ça marche avec n'importe quelle lumière. D'accord ? Hâte que d'écart, que si t'as pas ta petite bougie, eh ben, tu vas à côté de l'interrupteur. Tu fais tic. Et tu regardes.
Il
fait que deux fois, il faut trois fois. C'est pas que c'est comme ça, c'est pas chaud. Alors si le réveil il a dit, c'est où?
Non.
Quitton, c'est pas chaud. C'est pas chaud. Il n'empêche. Que quoi?
Que des bougies en sirop.
Parce que ça éclaire mieux.
Ouais,
il n'y a rien d'arrêt. Mais non, ça va être dur de faire avaler ça à tout le monde. Mais il n'empêche. Ça va. Mais non, mais tu vas pas lui dire. Mais par contre, si un jour vous êtes dans un cas où il n'y a pas de bougie, où tu peux pas allumer des bougies, ben, lui dis pas, n'allume pas. Tu saches, dis-lui, j'arrive, interrupteur.
Alors, on fait la bracha quand même.
Évidemment. La malo.
Ça fait drôle.
Par exemple, la table de cheveux dans l'hôtel. Par exemple.
Est-ce qu'il y a une différence entre éclairage incandescent et éclairage
non. En non, LED autant d'avoir. Autant d'avoir. Je vais pas parler Chanouka. Chanouka, c'est ma chose à faire. C'est-à-dire, Chanouka, t'as pas le droit d'utiliser la lumière. Tu dois juste la voir. Donc c'est autre chose. Là, on t'a dit le but, c'est d'allumer la lumière qu'il ne fasse pas noir. D'accord? Bekitsour, aval, bishvil, pesach, zeleor, aner. Pourquoi? Évidemment qu'alpi alacha, tu peux le faire avec ta lampe électrique. Parce que si le but c'est simplement de chercher des morceaux de Hametz, eh ben, ce qui va te donner le plus de lumière, c'est ce qui va te permettre de mieux chercher. Mais, Or Aner, peut-être parce que c'est moins, ça éclaire moins qu'une bougie, le Or Aner, il permet d'avoir de l'ombre également. Oui, la bougie. La bougie, elle permet d'avoir de l'ombre également. C'est la lumière de la bougie, elle fait de la lumière et de l'ombre. C'est à cause de la forme de la bougie, c'est à cause de la bougie en elle-même. Et peut-être qu'il y a un truc très fort là-dedans, dans cette histoire, que tu dois comprendre qu'il y a gamme lumière et gamme ombre. Et tu dois être capable de dévoiler à Kadosh Baruch Hu, et là. Parce que tu es en train de sortir d'Égypte. Tu es en train de partir en Géoula. Tu crois que ça va être que de la lumière ? Tu crois qu'il n'y aura pas de l'ombre Baderer ? Ou alors, mieux que ça, tu crois que l'ombre qu'il y avait avant la Géoula, elle n'a pas fait partie d'un processus général ? Comment ça se fait qu'on ne mange pas jeudi soir le Maror et vendredi soir la Matzah ? Si le Maror, c'est Zecher la Shi'aboud, si on dit que le Maror, c'est en souvenir de l'esclavage, de la servitude, et aïe aïe aïe, alors ça aurait été plus logique de le manger la veille, à Bdikat Hametz, c'est-à-dire le soir où tu es encore Keilu esclave. Et le lendemain pour le Seder, tu manges la Matzah, qui symbolise genre la liberté. Pourquoi on t'a demandé de manger les deux en même temps ?
Parce qu'on est les deux en même temps.
Parce qu'on est les deux en même temps. Et attends, viens, on va aller plus loin. Parce que lui, il est les deux en même temps aussi. Parce que si tu avais mangé le Maror la veille et la Matzah le lendemain, alors toi non, parce que tu es un tzadique, mais qu'est-ce que, philosophiquement parlant, on aurait pu imaginer ? Qu'il y a deux divinités.
Oui, c'est ça.
Il y en a une qui fait souffrir et une qui sort d'Égypte. Et celle qui a gagné, c'est celle qui sort d'Égypte. Okay. Et bien évidemment que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que nous, on vient amener la Ardoute. La Ardoute. Et c'est la raison pour laquelle, c'est ce que j'ai dit hier dans le petit Dvar Torah, hein, c'est Bidiouk. C'est la raison de ce qu'on appelle dans la Mishnah Or le Arba Asar. C'est la première Mishnah dans Psachim. Elle dit Or le Arba Asar, Bodkim et Techametz le Oraner.
Or, c'est la nuit.
Ah, c'est vachement ça, c'est bien juif ça. Là, c'est la nuit, et toi tu l'appelles Or. Bah, c'est Or. L'El Arba Asar, bah Or. Et on va t'expliquer, il va y avoir une grande marloquette dans le Talmud. Est-ce que Or, ça veut dire nuit ou ça veut dire jour ? Maintenant, tout le monde est d'accord qu'on fait l'abdicat Hametz la nuit. Ça, c'est pas un débat. Mais est-ce que or, ça veut dire nuit ou ça veut dire jour ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, est-ce que pour moi, quand c'est la nuit, je dis c'est la nuit ? Ou est-ce que je suis capable de voir, même quand c'est la nuit, la lumière ? Ça, c'est pas donné à tout le monde. D'être capable de voir la lumière, même quand c'est la nuit, zélo pas chute.
C'est-à-dire que le jour, il commence à la sortie des étoiles. Le jour d'après, il commence à la sortie des étoiles. Le Shabbat, on le fait rentrer.
Tu comprends ?
Non, mais c'est...
Mais c'est complètement...
C'est le soir.
Mais c'est pas logique.
C'est notre logique à nous.
C'est non, pas logique. C'est pas logique.
Absolu, c'est pas logique. Ah, dans l'absolu, oui.
Donc pourquoi on fait ça ? Pour ce qu'on vient de dire. Parce que Ayader Kodem la Havaya, ça fait partie du truc. Que la nuit, elle précède le jour, c'est parce qu'en fait, ça fait partie de ça. Ok ?
L'Ayader, c'est l'absence.
L'absence. La nuit, c'est l'absence.
Oui.
La nuit, elle précède le jour, donc elle fait partie du processus. D'ailleurs, c'est pas quelque chose de détaché.
Comme la nuit, au moment le plus noir, c'est juste avant que le jour il sort.
Bidiouk. C'est ce qu'on a vu dans le Talmud à Yerushalmi, dans l'histoire qui est racontée entre Rabbi Chiya Agadol et Rabbi Shimon ben Chalafta. Vous vous rappelez ? Marqué dans Maseret Brachot et dans Maseret Yoma. L'histoire est la même. Que Rabbi Chiya Agadol, il se baladait avec Rabbi Shimon ben Chalafta Bebikat Arbel. Ça vous est Bikat Arbel ?
Non.
Oh. Et ben alors, vous avez prévu des tioulim pour Cholamoued ? Ben allez vous balader, mais Bikat Arbel, à Nidomévine. Arbel, c'est à côté de Tibériade. Ah, si vous avez prévu un petit tioul dans la région du Nord, mais on pouvait aller dans la vallée du Harbel. Alors si vous êtes vous avez des âmes de crapahuteurs, vous pouvez même aller escalader la montagne de Harbel, mais c'est... Ah, faut s'accrocher. C'est le cas de le dire, hein. Il y a des parois qu'il faut grimper.
Des courants.
Des courants d'eau. Là-bas, il n'y a pas d'eau. Mais il y a en contrebas de la montagne, il y a la vallée de Harbel. Dans la vallée de Harbel, on a retrouvé une synagogue. Qui sait ? Peut-être que Nita Yarbeli est priée là-bas. Même si ce n'est pas la même époque. Quoi qu'il en soit, là-bas, Bebikat Harbel, Rabbi Chia Agadol et Rabbi Shimon Ben Khalafta, ils se baladent. De quoi ils parlent ? On ne sait pas. Ils ont parlé toute la nuit. Mais en fait, on sait parce qu'on a la fin de la discussion. À la fin de la discussion, Igiu Be'ayelet HaShachar, au moment, donc justement, où on passe du moment le plus sombre de la nuit à la lumière. Pourquoi on appelle ce moment-là HaShachar ? Oui, pourquoi ?
Parce que c'est le moment
le plus
noir.
Shachar. C'est Shachar. C'était le moment le plus Shachar il y a deux secondes. Donc ça s'appelle Shachar. D'accord ? C'est important des fois de se rappeler que l'hébreu, ça veut dire des choses. D'accord ? Et donc, au moment de Ayelet HaShachar, Rabbi Chia Agadol dit à Rabbi Shimon Ben Khalafta, « Kach hi geulatan shel Israël. » C'est comme ça la geoula du peuple juif. Bahatrala kim'a kim'a, au début ça va tout petit petit à petit, et après, olechet ou bokat. Et après, le soleil va éclater et tout le monde verra. Ok ? Donc, tout ça pour dire que kol ha-me'ametz et chaye olam hare u bone et ha-uma befoal. Tout celui qui veut mettre en avant chaye olam, maze chaye olam, l'éternité. Donc le Olam Haba. Alors il est obligé de construire le peuple dans les faits. C'est-à-dire, ça veut dire que quelqu'un qui s'occupe que du Beth Midrash, ben ou l'Osek Bechaye Olam. Ici, il s'occupe de son Chaye Olam personnel. Ça ne suffit pas. D'accord ?
Il faut gamme vegan.
Ben évidemment. כי חיותם הלאומית של ישראל המשך היא מהצלחת עולמים. Le fait que le peuple juif réussisse au niveau national, ça fait partie du dévoilement de l'éternité. וזהו הגודל של תורה שבעל פה, שעמדה להשגיר את חיי העולמים במלוא מובנים באומה ולהוציא מלבן מלבן של צדוקים שהתלהבותם הלאומית דמתה ללהבת של תבן שנשתלבה ודעכה ואיננה לומר ברכו את השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם זה כבר פרל סילור די סיסה לגרנדור של התורה שבעל פה. La grandeur de la Torah Shebealté qui a été rejetée à l'époque par les Tzidoukim. Vous savez, à l'époque, il y avait les Prouchim et les Tzidoukim. Nous, on est les descendants des Prouchim. Les Tzidoukim, ils ont dit, on n'y croit pas à la Torah Shebealté. Je raconte Torah Shebirta. Le problème, c'est que Torah Shebirta, il y aurait d'être les Chaya Maase. Torah Shebirta, c'est des grands idéaux. Ça ne descend pas.
Sans lien avec
la vie. Sans lien avec la vie. Avec la réalité.
Pourquoi
tu dis ça ? Ben
c'est vrai. Non,
c'est quoi ?
Je sais pas, ceux qui m'ont assisté tout à l'heure, qu'il faut construire dans la semaine.
Oui, mais ça ne me dit pas comment faire. C'est des grandes idéaux, mais ça ne me dit pas comment faire. Par exemple, dans le Torah Shemirta, on me parle 3-4 fois de l'idéal de Shabbat. Je ne sais pas comment on fait Shabbat. Alors on dit, il y a un idéal de Shabbat. Je ne sais pas comment on fait. Yetziat Mitzrayim, c'est l'idéal de la liberté. Tachlis, Hilchot Hametz ou Matza. Prends, et je vais faire une attaque personnelle, mais qui n'en est pas une parce que je ne la connais pas. D'accord ? Je vais citer son nom parce qu'elle représente quelque chose, mais je ne sais pas, je ne la connais pas perso. Mais prends une personne comme Madame Delphine Orville. C'est-à-dire, grande dirigeante du monde libéral en France. Ça, c'est toi qui l'as dit. Grande dirigeante du monde libéral en France, qui fait des cours qui sont très appréciés, qui est très intelligente et qui a beaucoup de connaissances. Et tout ça, c'est vrai. Maintenant, quand elle va me parler de Pessah, elle va parler, je n'ai pas entendu, mais j'imagine qu'elle a fait des cours sur Pessah. Elle va te parler de ce que ça représente, et elle va te citer plein de rabbanim, y compris le Zohar, et tout, elle va te dire qu'est-ce que c'est l'idée derrière la liberté. Vézé, agave, il choliote que des choses qu'elle dit sont vraies. Si elle reprend le Rambam et qu'elle cite le Rambam, ben c'est vrai. Maintenant, le problème, il est que si tu prends uniquement les grands idéaux, mais que tu ne les traduis pas en halakha, ben ça devient des idéaux qui ne vont pas du tout être mis en pratique dans la réalité. C'est pour ça que tu ne peux pas détacher la halakha de la Haggadah.
Oui, c'est un petit peu comme la religion du cœur, quoi.
La religion du cœur, les grandes idées humanistes, machin, mais on ne veut pas tachlès. Or, le judaïsme, c'est aussi tachlès. C'est-à-dire, je crie toutes les 5 minutes contre des gens qui sont que halakha, halakha, halakha. Mais tu ne peux pas, donc d'un côté, tu ne peux pas sans les idéaux, sans ce que ça représente, mais tu ne peux pas que avec ce que ça représente. Il n'y a rien. Rabba Verbizer.
Toute la Haggadah, c'est en fait raconter des grands idéaux.
Ah non. Toute la Haggadah, c'est justement le chilouv entre les deux. Rappelle-toi ces deux batteries, ces deux séries de questions. L'union. Les chalèves, réunir. Ces deux batteries de questions. D'un côté, on te dit. Comment ça se fait que d'habitude on mange du pain ou de la matzah et là on mange que de la matzah? Comment ça se fait que d'habitude on mange des courgettes et tout machin et là on mange que de la salade? Comment ça se fait que d'habitude on est assis, normal, et là on est allongé? Comment ça se fait que d'habitude on trempe rien et là on va tremper deux fois? Comment ça se fait que d'habitude on peut manger soit cuit, soit grillé et puis là on va manger que grillé? Ça, c'est les questions. D'un autre côté, on a une autre batterie de questions qui nous dit qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence entre la dimension de Chukim et de Mishpatim? C'est quoi cette différence de Hidot? Et puis, c'est quoi la valeur de cette Avoda pour vous? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça représente pour vous, le Korban Pessah? Ou alors, c'est quoi tout ça? Ou alors, Bichlal, c'est-à-dire que tu as des questions où tu poses les questions des grands idéaux. C'est les 4 questions des 4 enfants. Mais tu as 4 questions du Manishtana qui ne sont pas sur des idéaux.
Mais les réponses.
Qui sont sur des faits.
Les réponses. Les
réponses de quoi?
Avadi Mahinou et tout ça. C'est...
Allez, non, Mevin, tu t'arrêtes que à Avadi Mahinou? Pourquoi est-ce qu'on mange le Maror, Maror, Zéal, Shumma? On va te dire. Ça veut dire qu'on va faire correspondre les idéaux avec des maasim. C'est ça tout le judaïsme. Tu ne peux pas avoir uniquement des grands idéaux et la tzarek maasim. Mitzvot tzrichot kavana. Kenifsak la halakha. Mitzvot tzrichot kavana. Les mitzvot ont besoin d'une kavana. Alors évidemment, on ne t'a pas dit qu'il faut avoir la kavana du Harizal. Mais quand tu fais une mitzvah, il faut que tu aies la kavana de faire une mitzvah. Ah, et si j'ai fait que... Alors, si j'ai fait la mitzvah, mais j'ai pas fait de kavana, j'ai pas fait la mitzvah. C'est-à-dire, si on m'a attaché sur une chaise, le 15 Nissan au soir, qu'on m'a bandé les yeux, et qu'on m'a ouvert la bouche de force, et qu'on m'a mis dedans un morceau de matzah, kazaït, et qu'on m'a refermé de force avec un grand scotch, et on m'a obligé à manger, l'obidiu qui a tzatili de chovat achilat matzah. Par contre, si j'ai fait toutes les kavanot du monde sur la matzah et que j'ai pas mangé, gamle, ça t'est déchovat matzah. Donc, toute la Haggadah, elle est justement le chilouv entre les grands idéaux et leur traduction dans les faits. Et tout le concept de la soirée, c'est de faire des choses qui vont amener l'enfant à dire bah, d'habitude, on ne fait pas ça. Et donc, comme on ne fait pas ça, il va falloir que tu lui expliques pourquoi on fait ça.
Oui, ça va amener le questionnement.
Mais pas stable à amener le questionnement. Le questionnement sur des actes. Je ne sais pas si tu connais, il y a un minhag comme ça, très bizarre, chez nos frères marocains et tunisiens. Qu'avant même de commencer le repas, ils prennent le plateau de cheddar et ils le font voler en soucoupe volante au-dessus des têtes des gens. Hein ? En Algérie aussi, on fait ?
En Algérie aussi.
En Algérie ? Il a fait. Dans tout le Maghreb. Alors, Marloquette, est-ce que c'est Etmol ou est-ce que c'est Bibilou?
Ah, c'est Etmol, non, non.
Mais j'ai un genre tunisien, tu vois le problème.
Ah, non, chez les Tunisiens aussi, c'est Etmol. Quoi? Chez les Tunisiens, c'est Etmol?
Oui.
Etmol, chez les Tunisiens.
Non.
C'est marocain, c'est Bibilou, non?
C'est Etmol,
chez toi.
C'est marocain.
Toi, t'es marocain?
Non,
Algérien. Alors on fait quoi chez les Français?
Chacun
est
séparé.
Et chez nous, les
Belges. Nous, on ne connaissait pas. Mais attendez.
Toute la famille y passe.
Bon, mais c'est très bien cette histoire. Moi, je suis pour. Moi, je le fais aussi.
Toute la famille y passe.
Comment ça? C'est au début du Maghil?
Au début du
moment. Bah, t'as juste fait. Quoi? T'as fait Kadesh ou Khatz Karpas et Khatz? T'as fait 5 minutes de Tzeder et ensuite tu fais ça?
Ouais.
Chez la Lama. Parce que c'est sympathique de mettre le plateau sur la tête de tout le monde.
On commence par Etmol.
C'est le début du Maghrib.
Oui.
Chez la Lama.
Avant les questions.
Avant les questions.
Oui.
C'est au moment où on va dire Al-Akhmania.
Pour réviser quand même.
C'est parce qu'on dit Etmol, Aïdou, Abadim. Ça va avec la phrase quand tu dis Al-Akhmania, Diakhalou, Abadana. Chez la. C'est bien beau que tu la connaisses, la chanson. Lama. Vous avez quelques années de l'Ala Seder derrière vous. Personne ne s'est jamais posé la question pourquoi on fait ça.
Moi,
j'ai posé
chalou,
la question.
Hein? C'est chalou. Astam.
Lama tokim paraim et ta kampas.
Nous. T'as guidé ça. Ma chez chalou. Ah, mais chez chalou ma. Lama tovlim. Et tu vas lui dire Kara.
Zé, ben mettons cette jour.
Ah, nous, ben mettons.
Chara, de varim, yachtouba.
Non, mais vite. Deux secondes. Avant la Gemara, tu comprends que si le but c'est qu'il pose une question et que toi tu n'as pas de réponse à lui donner, là c'est un clou.
C'est ça ma question.
Donc, c'est Nazan.
Karpas Parmaim et l'autre.
D'abord, l'eau Karpas Parmaim. C'est l'eau Karpas Parmaim.
Je t'ouvre Parmaim
et ta. Et ta C'est l'autre d'abord, je t'ouvre Parmaim.
La Mayon.
T'ouvre j'étais Dvarim. C'est pour ça que c'est Parmaim.
Maror
dans le Kharoset. Karpas d'abord dans l'eau salée, ensuite Maror dans
le
Kharoset.
Tu passes tout le Manishtana, ils ont tous des réponses. Non. Le dernier, c'est quoi sa réponse?
C'est pas chouette. Pourquoi est-ce qu'on trempe pas à maï? Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on trempe pas à maï? Le carpas dans l'eau salée, le carpas, va à maror bacharoset. Ok? Lama tovlim et ta carpas bememelach. Lama.
Le carpas galéré comme la sortie.
Lama ochlim carpas. Ochlim karpas, qui zed arkam shel bene chorin. C'est le style des gens libres que de commencer le repas par des légumes pour s'ouvrir l'appétit. Khaverim, vous êtes peut-être marocain, algérien, tunisien de confession. Vous savez pas qu'on fait des salades avant le début du repas? Non, vous en faites pas le Shabbat?
Oh, juste 26.
Voilà. À quoi ça sert les salades en début de repas? Ça sert à ouvrir l'appétit.
Nakhon ? Et après les 26, on n'a plus
faim. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais normalement, la salade chai, le légume frais, c'est fait pour ouvrir l'appétit. Pourquoi tu le trempes dans le sel ?
Sinon,
c'est pas bon.
Sauf
le réfort. Tu trempes le carpas dans l'eau salée. C'est bon, c'est pas mauvais. Et à des rabats, pourquoi tu l'as trempé dans l'eau salée ? Parce que ça va lui donner plus de goût. C'est à col. Le carpas, c'est pas un moment de tristesse. Alors, il y en a qui vont te dire, non, tu le trempes dans l'eau salée parce que ça nous rappelle les larmes.
Oui.
Hein?
Sûr.
Sauf qu'on trempe dans l'eau salée même quand on n'a pas les larmes. Tu mets jamais de sel sur tes aliments. Parce que c'est meilleur.
Oui, parce que la nourriture sans cesse, c'est immangeable.
C'est Tafel, c'est Ashkenaz. Ah, pourquoi dans l'eau salée? Parce que c'est, tu ne peux pas le tremper le persil comme ça, le céleri, ce n'est pas le persil. Le céleri, comme non, ça, dans un truc de sel. Alors tu mets dessus comme ça. À l'époque, on avait la
peine de tremper. Pour le Edmol, la raison du Edmol.
Attends, deux secondes.
Pourquoi tu dis.
On y vient. Hein,
persil,
c'est bien aussi. Oui, mais c'est très bien aussi, mais ça ne s'appelle pas carpas. Ah. Ce qui s'appelle le mot carpas, c'est le céleri.
Comment on fait la messe?
On fait une céleri. En Pologne, on faisait avec des patates. Parce qu'il n'y avait pas de céleri.
Et en Belgique, avec des frites.
Ah oui. Donc, carpas, tu trembles dans l'eau salée, liftoir, ta théavon. Ça vient répondre à celui qui est l'eau aidé à l'ichol. Ve'at petachlo. Liftoir, ta théavon. C'est-à-dire la théavon de savoir et de ce que tu veux. Maintenant, la deuxième fois que tu trempes, c'est le maror bacharoset. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est que nous, aujourd'hui, on fait mal notre aroset. Eh oui, puisque notre aroset, il est pâteux. À tel point que tu vas prendre un couteau, une cuillère, une pour l'étaler sur ta feuille de salade.
Entre les deux. Non.
Quoi?
Nous, on le dilue dans du vin et on trempe.
Ah, il y a fait mode, vous avez bien raison. C'est-à-dire, la majorité des charosèves qu'on trouve dans le commerce, c'est des pâtes. Mais tu as raison de le diluer, c'est toi qui as raison, il faut le tremper. C'est-à-dire? Et pourquoi on trempe le maror bacharoset?
Pour amoindrir l'amertume.
Le
mortier.
Pour les deux.
Ah, non, mais si c'est en souvenir du mortier.
Avanime,
pourquoi c'est bon?
Bah oui.
Ah ouais, mais non, mais non.
Ah, tu veux pas nous changer
on
ça?
On retourne la situation.
Non, on passe à un autre sujet. Tu veux pas
nous
changer ça? Il faut que ce soit bon, c'est délicieux.
Ah, mais je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Je te dis simplement que toi aussi tu vas dire à tes petits enfants que c'est en souvenir du mortier. Alors pourquoi tu le fais bon?
C'est pour adoucir l'amertume.
Mais non, je veux bien. Mais alors ne me dis pas que c'est le mortier.
Non, je veux dire le mortier.
Ah, il y en a quand même beaucoup qui vont dire ça. Ouais, et je suis sûr que tu l'as déjà dit une fois dans ta vie. Que c'était pour se rappeler du mortier qui faisait tenir les briques pour construire les pyramides. On n'a pas construit les pyramides, c'est pas
grave. L'avantage ici en Israël, c'est un jour. C'était un jour. Par rapport aux deux jours de Sédarim en.
Il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que le charoset c'est zecher la tit, le mortier, ou alors zecher la tapouach? C'est pour ça qu'on met des pommes dans le charoset. Mas zecher la tapouach, et c'est là que tu vas comprendre ce que c'est le fait d'adoucir l'amertume. Mas zecher la tapouach. Alors, Vadaï, qu'il y a Shirashirim dedans, que Zdin Tapouchin Kadishin, mais Shirashirim, il n'a pas encore été écrit à l'époque de la sortie d'Égypte. Et Lama.
Que et on ne faisait pas non plus le charoset à la sortie de l'Égypte.
On ne faisait pas le charoset, mais on se souvenait des pommes. C'est de quelles pommes on parle?
C'est à l'ombre des pommiers.
Exactement, c'est à l'ombre des pommiers là-bas en Égypte que les femmes, elles se faisaient belles et qu'elles allaient séduire leur mari pour enfanter le peuple juif.
Ouais.
Alzen et Emma, tachat atapuach orartiha.
On est très loin du mortier.
C'est pour ça qu'on met très loin du mortier, mais c'est vachement plus logique pour ça que ce soit bon.
C'est pour ça qu'on met la douceur.
Ouais. Et tout ça pour nous amener à notre histoire de plateau de céder qui tourne autour de la tête que tu sais pas pourquoi. Il est temps de savoir pourquoi. Hein? Alors les amis, peut-être pour la première fois cette année, quand vous le ferez, vous demanderez à vos petits-enfants, mais pourquoi on fait ça? Tchouva, Kikatouf va Mishnah. שבתחילת הסעודה עוקרים את השולחן. מה זה עוקרים את השולחן? Alors, il faut se remettre dans l'époque. À l'époque, les maisons ne ressemblent pas vraiment à nos maisons et on n'a pas le mobilier qu'on a aujourd'hui. Les maisons sont beaucoup plus petites et en général, tu n'as pas 27 chambres dans la maison et un salon, salle à manger. Le salon, c'est la pièce de vie des gens. Donc, quand tu ne manges pas, alors ceux qui ont très riches, ils ont une chambre pour les parents, mais les enfants, ils n'ont pas chacun leur chambre, ils dorment dans la pièce de vie, quoi. Donc le salon, on ne peut pas mettre une table en permanence. Donc la table, elle est là quand on mange. Et quand on ne mange pas, au krim et à shulchan, qu'est-ce qu'on fait? En général, et on voit ça très bien à Katserin, en général, on prenait une table, des planches de bois, machin, qu'on accrochait avec des cordes, on l'accroche à une poutre en hauteur et on lève et on redescend. Dès qu'on a besoin de la descendre, on la descend. Dès qu'on a besoin de la relever, on la relève. Et donc à la fin du repas d'habitude, on crime et tachoulchan. La accord, on déracine la table, on la remet en hauteur. Mais on fait ça quand? À la fin du repas. Et là, tu fais ça au début du repas. C'est à la fin du repas qu'on débarrasse. Là, on débarrasse maintenant. On dit lama. Oh, parce qu'avant de manger, mon ami, on va raconter l'histoire.
Mais pourquoi il y a une table birkan?
Quoi?
Avant le seder.
Non, tu mets une table parce que tu vas manger. Tu vas manger. Mais là, tu vas lui dire, mais avant de manger, on va te raconter l'histoire.
Le plateau du seder représente.
Et donc, aujourd'hui, on a des tables fixes. Qu'est-ce qui nous reste de ça? Le plateau de seder. Donc le plateau de serre, c'est qu'il ou la table d'avant.
Il faut faire tourner autour de...
Non, ça, on ne faut pas forcément faire tourner autour de la tête de tout le monde, mais... Ça, c'est... Donc le raïon, il vient de là. Qu'avant de manger, on va te raconter l'histoire. C'est ça? Donc c'est Rachoub, la date. Donc voilà, donc les... Et tout ça pour dire qu'il faut faire descendre les grands idéaux à la halakha, les maasé. La chène, barou et taché, gam, achar... עמק החיים הלאומיים, עומק, סליחה, החיים הלאומיים בישראל, והתגלל בין הארץ. האימוצים הכלליים, ההולכים לעומת התחייה, tout ce qu'on va prendre avec nous pour faire avancer la résurrection nationale, ההולכת ומתגלה במסיבותיה הרבות, האחוזות זו בזו, בתר שלושת, שלשלת גדולה, ארוכה, מסובכה ונפלאה, מפלאות תמים, מפלאות דמים דהים. C'est-à-dire que nous faisons, quand on fait correspondre le grand idéal avec les actions, eh bien on se rattache à cette chaîne de transmission qui nous permet de nous rattacher et à Moshe Rabbeinu, et à notre histoire, et à Kadosh Baruch Hu Bichlal. C'est ça qu'on fait à Pessah. Et c'est pour ça que je peux vous souhaiter un Pessah non seulement kasher, mais surtout Sameach. Et profitez bien de vos familles et racontez-leur bien l'histoire. Et si je puis me permettre, en plus de la sortie d'Égypte, peut-être pendant le repas quand les gens ils ont mangé et tout ça, racontez-leur votre sortie à vous de Paris. Racontez-leur comment ça a été, dans quelles conditions. Demandez-leur à eux de raconter leur sortie également. Par exemple, dans ta famille, toi, tu peux raconter comment toi t'es venu, comment tes enfants ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait, quels ont été les défis, quels n'ont pas été les défis. Et demande à tes petits-enfants, les Israéliens, comment eux ils vivent le fait d'être nés en Israël, qu'est-ce que ça veut dire pour eux par rapport à ce qu'ils ont vu de chez papy et mamie, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on se rattache à une tradition ancestrale.
C'est beau qu'on ait arrivé sur Pessah juste.
T'as vu? Incroyable! Il n'y a pas de hasard.